apprendre à dire non. Tu parles d'une leçon. Apprendre à dire non à tout ce qui nous semble mauvais, injuste, inapproprié. C'est pas évident et vous le savez parce que vous êtes comme moi. Vous êtes très bien élevé. Depuis le temps que l'autorité, quelle qu'elle soit, parentale, scolaire, sociale, nous intime de dire oui. Si on dit non, c'est qu'on désobéit, c'est qu'on n'est pas gentil et on en paye toujours le prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, on nous a éduqués à accepter au point qu'on est convaincu que le problème vient de nous, au point de le refouler, le problème, avec les conséquences qu'on peut imaginer, ou se résigner, ou s'écraser. Mais non ! Vous vous souvenez quand on savait dire non, quand on était petit, qu'on commençait à parler, qu'on disait non à tout bout de champ, ce qu'ils expriment, les enfants, à travers ce non, ce qu'ils affirment, ce qu'ils font advenir, c'est ce qu'ils sont, essentiellement. C'est leur espace, les frontières de leur identité, les limites à ne pas dépasser. Vous vous souvenez quand on savait dire non, sans culpabiliser, sans avoir besoin de se justifier, sans revenir sur ce qu'on vient juste de dire, de peur de n'être plus aimé. L'ironie, c'est qu'apprendre à dire non, cela revient à désapprendre aujourd'hui, à désapprendre tous nos bénis oui-oui.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui a-t-elle appris à dire non? Elle est romancière et a tout juste 26 ans. Elle publie un cinquième livre, Une vie possible. C'est le récit d'une jeune femme confrontée à l'expérience solitaire et taboue d'une grossesse qui s'interrompt, volontairement ou involontairement, un témoignage intime où elle reprend le flambeau d'une génération qui s'est battue pour la liberté des femmes. Bonjour Lynne Papin.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous savez dire non?
J'ai appris à dire non. C'est effectivement un chapitre dans mon livre qui s'appelle « La mue » et où je parle de la peau du serpent et du fait de se défaire d'une peau devenue trop étroite en fait et trop étriquée et de s'en constituer une nouvelle à sa taille.
Parce que quand est-ce qu'il vous est arrivé, Lynne Papin, par vos silences, de laisser dire, de laisser faire ?
Très souvent, et c'est vrai que je trouve qu'on est éduqué, notamment quand on est une fille, à être sage, à bien se tenir, à ne pas dire non, à ne pas prendre trop de place, à être jolie, polie. Et en fait, à force, ça nous réduit. Et dans le livre, la narratrice dit son premier grand non, qui est le non au bébé à venir, donc le non de l'avortement. Et à partir de là, elle remet en question toute son identité.
Alors on va y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est que vous le dites bien, ne rien dire, c'est d'une certaine façon consentir. Qu'est-ce qui se passe quand on consent pendant trop longtemps, sans résister ?
Je pense qu'on efface son identité. Je pense que dire non, c'est aussi s'affirmer. C'est affirmer, voilà, vous disiez tout à l'heure, les contours de son identité. Et qu'à force de dire oui, on est un ventre mou, quoi.
Dans quelle mesure diriez-vous que ce sont tous les noms que vous n'avez pas su dire qui vous ont amené à dire non, justement, de façon ferme à la possibilité d'un enfant à naître?
Je pense que tous les noms que je n'ai pas su dire ont fait que j'étais quelqu'un d'assez allongé et qu'il fallait se tenir debout au bout d'un moment. Et que c'est vrai qu'à force de... voilà, c'est comme quand on vous marche sur le pied une fois, deux fois, trois fois et on n'ose pas dire « aïe, ça me fait mal ».
Oui, c'est ça. Et une fois que ça sort vraiment.
Une fois, exactement.
Alors ce grand nom, justement, quelle transformation est-ce qu'il a opéré en vous, Lynne Papin ?
Eh bien, c'est le fait de devenir une femme debout. C'est ce que disait Gisèle Halimi. C'est vrai que je pense que à force de dire non, on a du mal à s'affirmer. Quand on prend conscience surtout de toutes les injonctions qui ne nous appartiennent pas, notamment quand on est une femme, du fait de devoir bien s'habiller, se maquiller, se tenir en société. Et en fait, ce sont des choses, peut-être avoir des enfants, être mariée, enfin tout ce qui est social et qui ne nous appartient pas. Eh bien, je pense que quand on prend conscience de ça, on peut dire si oui ou non, on a envie de ça.
Savez-vous qu'il a fait surgir chez vous littéralement une nouvelle voix ?
Oui. D'ailleurs, quand on parle de la mue, c'est marrant parce que chez un serpent, c'est la peau. Mais en fait, chez les humains, c'est la voix. Et c'est vrai qu'on change de voix. On dit des adolescents qu'ils muent.
Une voix d'écrivaine ?
Une voix de femme.
Mais pour quelle raison, avant cet avortement, dire non, c'était pour vous quelque chose de si difficile, en fait ? Vous avez fini par le savoir ?
Oui, parce que je pense que j'ai été éduquée comme ça et que c'est vrai qu'à force de déménager aussi, j'ai eu beaucoup de déménagements, de déracinements.
Ça veut dire que c'est lié à l'éducation pour vous ?
C'est lié à l'éducation, exactement. Et puis c'est aussi lié au fait que une partie de moi est étrangère. Et je pense que quand on est un étranger dans un nouveau pays, on essaye de s'assimiler, on essaye de se faire discret, de pas déranger. Je dis dans le texte qu'on est comme des invités. Oui. Chez quelqu'un, et donc on ne dit pas non. On dit merci, c'était très bon. Est-ce que je vous resserre ? Oui, avec plaisir.
J'avais appris la politesse, la discrétion, j'avais appris à me faire bien voir. Écrivez-vous, page 88, en quoi écrire, Lynne Papin, a plus forte raison écrire sur soi, c'est aussi accepter de rompre avec l'idée de se faire bien voir, justement.
Bah oui, parce que l'écriture est... C'est le contraire de se faire bien voir, je trouve.
Alors à quel moment est-ce qu'on décide justement de raconter ce qui ne se raconte pas, de dire ce qui ne se dit pas, de prendre le risque d'être impudique?
Bah, vous savez, j'ai cité Camus qui disait que l'écriture, que la grandeur de l'écrivain était dans deux services, le service de la vérité et celui de la liberté, et je trouvais ça tellement juste. C'est vrai que quand on écrit, ça n'a aucun sens d'écrire... En voulant se faire bien voir ou sur les apparences, en fait. C'est vrai que je trouve qu'il faut descendre au plus profond et écrire ce qui nous traverse et ce qui nous, voilà, transperce.
Cette histoire de fausse couche et d'avortement, pourquoi fallait-il impérativement que vous la racontiez et que vous la rendiez publique, Lynn Papin?
Parce que j'écris toujours à partir des choses qui me traversent, justement, et je trouve que la littérature, c'est ça. On écrit sur l'amour, sur le deuil, sur la maladie, sur le corps. Et je me suis demandé pourquoi, alors qu'on écrivait sur tous les sujets, pourquoi on n'écrivait pas sur ce sujet qui était poétique, ouais, philosophique, le fait de ne pas naître.
Et puis d'un point de vue politique, c'est quand même assez passionnant. C'est une manière de reprendre le flambeau, comme le disait Gisèle Halimi à Annick Cojon dans son livre Une farouche liberté, qui était notre invitée hier. Il y a cette dimension-là aussi chez vous dans l'écriture.
Bien sûr, il y a cette dimension de repartir des textes de toutes les femmes qui se sont battues, notamment dans les années 70, pour la légalisation de l'avortement. Donc c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur voilà, les textes de Gisèle Halimi, un peu plus tôt Simone de Beauvoir, Simone Veil. Et c'est une sorte de, oui, de nouvelle génération aujourd'hui où l'avortement est légal, mais on se rend compte que c'est un long combat.
Mais vous dites que le mot féminisme avant votre grossesse, il vous disait rien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, je voulais dire par là que comme je suis née dans les années, enfin en 1995, la pilule était, voilà, pour nous en fait, la pilule, l'avortement, les pantalons, enfin tout ça, c'était des acquis et ça nous paraissait le Moyen-Âge, l'époque où la pilule, enfin où il y avait pas la pilule et où l'avortement était interdit. Et au final, c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je me suis rendue compte que j'étais quand même une femme, quoi qu'il en soit, même si je me sentais à l'égal des hommes, et qu'en fait j'avais hérité d'un combat et que mon corps féminin était voilà, avait une histoire en fait.
C'est à ce moment-là que ce mot féminisme s'est incarné en vous, en
exactement
fait.
Je me suis, en fait, en partant de mon ventre dans lequel voilà un autre être pouvait naître, je me suis dit que ce ventre était politique et que ce ventre avait une histoire politique et que ce n'était pas anodin d'être une femme.
Celle qui s'incarne chaque jour un peu plus dans cette émission, vous la connaissez, Lynn, c'est la culture et son actualité tangible. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 6 avril ?
C'est une figure historique majeure de l'histoire de la Méditerranée, au-delà de l'histoire française et algérienne.
Le MUCEM à Marseille inaugure aujourd'hui la grande expo Abdelkader, figure de l'indépendance algérienne. À travers un parcours de 250 œuvres et documents, l'événement propose de découvrir le parcours, les combats, l'héritage spirituel de cet émir pensif, féroce et doux, comme l'écrivait Victor Hugo, qui fut tout à la fois chef de la résistance anticoloniale, fondateur de l'État algérien et architecte de la paix entre l'Orient et l'Occident.
Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement.
Sacré bordel, c'est le titre du nouveau morceau qu'a révélé hier le duo de rappeurs toulousains Big Flo et Oli. Après 18 mois de silence radio, les deux frères y chantent leur France à eux, tout en splendeur et paradoxe, grandeur et inégalité. Big Flo et Oli, qui disent avoir voulu livrer une chanson forte de sens, y font l'écho des doutes et des questionnements d'une certaine jeunesse à moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle.
Allez, c'est un ensemble de danseurs qui vont danser des chorégraphies.
Alors on danse aux Beaux-Arts, le chorégraphe Thierry Malandin, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz, va être reçu aujourd'hui sous la coupole du Palais de l'Institut de France à Paris. Élu aux côtés de Biancali, Angelin Prejlocage et Caroline Carlson, Thierry Malandin fait partie des premiers artistes du milieu de la danse à siéger au sein de la prestigieuse Académie qui a attendu plus de 100 ans pour ouvrir une section de chorégraphie. Et enfin, mercredi de Frima, on se réchauffe au cinéma. Aujourd'hui, on se laisse envoûter par Contes du hasard et autres fantaisies. La nouvelle proposition de Ryusuke Hamaguchi, le cinéaste japonais, qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur film étranger grâce au très beau Drive My Car. Cette fois-ci, l'ancien élève de Kurosawa et admirateur de Romer propose une variation en trois contes autour des thèmes de la coïncidence, de l'inattendu, articulé en portraits de femmes délicats, subtils, où on y file. La jeune romancière Lynn Papin, invitée de Boomerang ce matin pour Une vie possible, ce livre où vous revenez sur deux événements qui ont modifié la perception que vous aviez de vous-même, on l'a compris, à savoir une fausse couche doublée quelques mois plus tard d'un avortement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mots, vous les interrogez. Dans quelle mesure écrire, c'est toujours pour vous questionner le langage ?
On écrit à partir des mots, et c'est vrai que dans ce cas, le mot fausse couche, par exemple, m'a posé question. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on disait fausse couche alors que c'était vrai, alors qu'il s'était passé quelque chose de réel. Et c'est vrai que c'est... Voilà, avortement aussi, c'est pareil, c'est interruption volontaire de grossesse. Alors évidemment, c'est une bonne chose, qu'il y ait la volonté, qu'il y ait le choix. Mais je me suis demandé dans quelle mesure c'était volontaire. Est-ce que ça n'avait pas plus trait à la capacité, au fait d'être capable ou incapable d'avoir un enfant, qu'au fait d'être vraiment volontaire ou involontaire?
Ce que vous dites en fait, et c'est intéressant, c'est que le langage, ça peut être la négation de l'expérience vécue, et oui, surtout du traumatisme que ça peut induire.
Le langage, je trouve, a directement trait à nos émotions, à ce que l'on vit, et c'est une manière de... En fait, ça représente ce que l'on vit. Et donc, quand ça le représente mal, ça pose problème.
Diriez-vous que les mots vous ont souvent induit en erreur, Lynn Papin ?
En tout cas, j'aime les interroger. J'aime savoir, par exemple, leurs racines, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et je trouve que les mots permettent parfois de modifier même nos émotions.
Oui, je pense par exemple à l'expression « avoir un enfant ». Qu'est-ce qui, dans cet enchaînement de mots, a été profondément déceptif pour vous? Vous le racontez.
Oui, c'est le terme « avoir ». C'est vrai que « avoir » me pose problème. Je préfère « être ». Et je dis dans le livre que je préfère dire « devenir mère », parce que je trouve que c'est un changement total de l'identité, de notre vie, et que c'est pas simplement « avoir » comme on a une voiture, un sac à main.
Parce que qu'est-ce que ça induit là encore, cette expression, ce verbe « avoir »?«
Avoir », c'est très capitaliste, c'est posséder.
Ouais.
Et alors que là, cette expérience de vie, de faire naître au monde, elle est tellement plus grande que avoir. C'est vraiment être.
Du nombre de choses qu'on comprend à vous entendre. Là, c'est 15 ans de psychanalyse et moi pour nos auditeurs, nos auditrices. Comment ça, elle m'a eu, maman? Au fond, diriez-vous, Lynn Papin, qu'on sous-estime trop souvent le pouvoir des mots? Là, c'est à la romancière, mais aussi à la femme que je m'adresse.
Je pense pas qu'on le sous-estime, je pense qu'on ne le considère pas et que... On utilise les mots, on les réutilise sans les interroger. Et en fait, ça a un effet sur la pensée et sur la manière dont on comprend le monde. Et là, en l'occurrence, avoir un être, c'est rigolo parce que il y a les deux auxiliaires, quoi.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, vous, Lynn Papin?
J'ai toujours écrit depuis que je sais écrire, depuis que je suis enfant. Donc ça fait vraiment partie de ma manière d'appréhender le monde, les choses. Et souvent, j'ai du mal à comprendre les expériences que je vis. Et je les comprends ensuite, en les écrivant, justement à travers les mots.
Votre premier roman, paru il y a 6 ans, il s'appelait L'Éveil.
Oui.
Et il nous transportait à Hanoï, au Vietnam, où vous avez passé une partie de votre enfance. Quand vous repensez à cette ville, quelles sensations vous reviennent tout de suite?
Cette ville, pour moi, c'est le lieu de l'enfance. C'est vraiment c'est comme une maison où on a passé toute son enfance. Donc il y a des odeurs, il y a l'humidité, des visages. C'est vraiment, le paradis de l'enfance, paradis perdu.
Alors vous dites justement que là-bas, au Vietnam, vous avez évolué dans une sorte de gynécée. Qui étaient ces femmes au milieu desquelles vous avez grandi?
Oui, c'était ma grand-mère, ma nourrice, mes tantes, ma mère. Tout le monde vit au même endroit au Vietnam. Tout le monde vit dans la même maison, les différentes générations. Donc c'était vraiment un lieu, le lieu de la famille.
Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis, ces femmes, Lynn Papin, particulièrement votre mère et votre grand-mère, qui étaient au centre de votre troisième roman, Les Eaux des Filles?
Je pense qu'elles m'ont transmis une force. Ce sont des femmes qui ont vécu pendant la guerre, donc les guerres successives d'ailleurs du Vietnam. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère. Ma mère a vécu son enfance sous les bombes. Et donc, ce sont des femmes qui se sont battues, ce sont des femmes fortes.
Une partie de l'histoire, en fait, à vous entendre. C'est ça qu'elles vous ont transmis, de l'histoire?
Oui, tout à fait, de l'histoire. Et puis, c'est vrai que le Vietnam était aussi l'Indochine française. Donc, les deux pays ont une histoire commune aussi.
Dans quelle mesure ça vous interroge, ça, constamment, cette histoire collective, Lynn Papin?
Je pense que ça m'habite beaucoup, et notamment dans mon écriture. Le fait d'avoir déjà un autre langage, une autre langue maternelle pour un écrivain, je pense que c'est quelque chose d'assez fort, d'avoir deux langues. Et ensuite, l'histoire de ces deux pays dont l'un était colonisé par l'autre, c'est aussi les deux parts de moi où c'est comme si l'une était inférieure à l'autre, l'une était en guerre contre l'autre et l'une était l'invitée de l'autre. Donc je pense que ça me constitue beaucoup.
Oui, c'est fort, mais c'est lourd aussi à vous entendre. Est-ce que ça a pu vous peser, justement?
Oui, tout à fait, ça me pèse, mais je m'en débarrasse en écrivant, en mettant à distance.
Alors écrire, justement, c'est peut-être aussi une manière de, non pas de se libérer d'une histoire en fait, mais de se réconcilier tout simplement avec elle, de faire un lien.
De réparer, oui. Tout à fait. Je pense que en écrivant, en mettant à distance, en interrogeant les choses, on se rend compte que ce sont aussi des histoires humaines, ce sont les histoires de tout le monde. Et donc, quelque part, ça nous décharge.
On va reparler ensemble de récits, de libération, de mots et de voix aussi. Juste après celle d'Etta James, c'est un de ses plus beaux titres. Et il parle de nos faiblesses. Fool That I Am en 1961, vous êtes sur France Inter avec Lynn Papin. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Fool that I am for falling in love with you, and a fool that I am for thinking you loved me too. You took my heart, then played the part, oh, of little coquette in my dreams. Just disappeared like the smoke from a cigarette. And oh yeah, yeah, fool that I am for hoping, oh, you'd understand. And thinking you would listen to, and oh, the things I had planned, but we couldn't see eye to eye. And oh, fool that I am. Oh, but I still care. Fool that I am.
France Inter. Boomerang.
En fait, ce qui frappe, c'est vraiment son calme. Vous savez, le calme qui irradie de son regard jusqu'au bout de ses doigts. Elle a quelque chose de l'étudiante en plein grand oral, jamais pris au dépourvu, éloquente, directe, jamais sur la défensive. Et on se dit qu'elle sera vraiment visée juste pendant tout l'entretien. Tout en cabant ce matin, cabant breton peut-être. La romancière Lynn Papin, invitée de Boomerang pour Une vie possible, ce livre qui est émaillé d'expériences intimes, on l'a compris, et c'est intéressant parce que l'autofiction, c'est un genre que vous n'avez pas toujours pratiqué, mais qui revient chez vous comme un refrain. Qu'est-ce qui, à certains moments, Lynn Papin, de votre parcours d'écrivain, rend nécessaire le passage vers l'autofiction ?
Je pense que ce sont... J'ai fait deux autofictions, au final, Les Eaux des Filles et Une vie possible, qui étaient... Les Eaux des Filles, le point de départ était l'anorexie, la maladie. Et Une vie possible, c'était les interruptions de grossesse. Donc je pense qu'en fait, finalement, ce qui déclenche cette nécessité, cette impulsion d'écrire à partir de ma vie et de moi, sans fiction, sans inventer, ce sont vraiment des événements qui m'ont traversé le corps, en fait.
Ah, c'est intéressant, mais en même temps, le corps est présent dans tous vos livres.
C'est vrai.
Y compris les fictions, les grandes fictions. C'est cette importance-là au corps. Parce que quel outil est-ce que c'est, en fait, le corps pour l'écrivaine que vous êtes ?
Ah bah c'est le tout. Je pense que enfin moi ce qui m'intéresse c'est la manière dont on vient au monde. Donc j'interroge beaucoup cette naissance, la manière dont on est, et ensuite le grand mystère c'est la manière dont on meurt, dont on part. Mais entre les deux il y a le corps qui grandit, le corps qui vieillit, qui tombe malade, qui s'abîme, qui grossit, qui enfante.
Le corps qu'on utilise aussi quand on écrit, tout simplement.
Le corps qui est aussi le celui à travers lequel on ressent les émotions, les sensations. Et je pense que c'est vrai que moi, je suis très, très sensible à beaucoup de choses. Et donc, le corps est vraiment mon outil, quoi.
Vous savez, moi, ça me passionne. Qu'est-ce qui fait, en fait, de l'écriture une expérience physique, en fait, pour vous, Lynn Papin ?
Ah, c'est absolument physique, parce que c'est à partir du corps que l'on a toutes ces sensations, les émotions. Enfin, moi, je suis dans l'éveil, j'étais très sensible, par exemple, aux odeurs, aux sons. Donc tous les sens, en fait, tous les sens sont en éveil, justement.
Diriez-vous que c'est comme ça que ça commence, justement, par des sensations,
ouais,
par des sens.
Ça commence comme ça, et puis ça commence aussi par le fait d'être mal à l'aise, je pense, dans son corps. Et moi, c'est comme ça que j'en suis venue à l'écriture et que c'est devenu une nécessité, parce que j'étais mal à l'aise dans l'espace, mal à l'aise dans la vie, et du coup, l'écriture était un moyen de comprendre cette vie et d'y être à l'aise, de l'apprivoiser, en fait.
Alors, il n'y a rien de plus politique qu'un corps. En fait.
Oui, surtout celui des femmes.
Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez un corps, vous, Lynn Papin ?
J'ai compris en tout cas que j'avais un corps de femme au moment où je suis tombée enceinte. Et j'ai compris que ce corps de femme avait une place dans les textes politiques, était depuis très longtemps en fait remis en question, verrouillé, politisé et très peu libre.
Mais auparavant, dans cette réflexion-là, dans quelle mesure, par exemple, au cours de votre existence, votre corps a-t-il pu vous apparaître comme un corps étranger ?
Ah oui, il y a effectivement un chapitre dans le livre qui s'appelle « Le corps étranger ». Je pense que ça commence très très tôt, ça commence au moment où je suis dans le ventre de ma mère, en fait. Et je trouve, quand on est, voilà, l'enfant dans le ventre de sa mère est déjà un corps étranger, dans un autre ventre. Et donc, voilà, ça commence là.
Vous arrive-t-il encore de vous sentir étrangère ?
Bien oui, ce corps étranger devient ensuite un corps étranger dans les deux pays où je suis née. Enfin, dans les deux pays, voilà, la France et le Vietnam, puisque quand j'étais au Vietnam, j'étais considérée comme française, donc j'étais déjà un corps étranger. Et quand je suis arrivée en France, j'étais considérée comme vietnamienne, donc j'étais de nouveau un corps étranger.
Alors étrangère à vous-même aussi ?
Étrangère aux autres. À moi-même, non, mais aux autres.
Vous savez, je m'interroge en vous écoutant ce matin, je me demande, se pourrait-il que l'écrivain soit toujours, en fait, un corps étranger, toujours un corps en décalage, un corps qui se tient légèrement en marge des autres écrivains, du monde, pardon, pour mieux observer, pour mieux regarder.
Ouais. L'étranger de Camus, et puis c'est Imre Kertész qui disait que écrire sur la vie, c'était remettre en question la vie, et que celui qui la remettait en question, c'était celui qui était mal à l'aise, qui n'était pas bien dans ce propre élément. Donc je pense que oui, je pense qu'on en vient à l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est comme un manteau maintenant. Ça me protège.
C'est une condition nécessaire, en fait, d'être étranger, alors ?
Je pense.
Qu'est-ce qu'on construit quand on est écrivain, Lynn Papin, au fond ? Vous avez fini par le savoir ?
Moi, je me construis, je pense, un pays, justement. Comme je suis étrangère dans partout, et que j'ai toujours déménagé, le déracinement, c'est quelque chose de très fort. J'ai toujours été déracinée, et je pense que mes racines sont dans la littérature, et que livre après livre, c'est comme si j'habitais quelque part.
Et pour accéder à ce pays, je suppose qu'il faut des ponts, qu'il faut des passerelles. L'écriture, c'est une passerelle, mais il se trouve que pour terminer cette émission, c'est un texte sur une passerelle que vous nous avez écrit. Une passerelle qui existe, la passerelle Marie-Claire Chevalier à Bobigny.
Belle transition.
Ouais, je veux bien que vous lisiez.
Nous envisagions le temps comme une donnée linéaire, progressive, dont nous avions parcouru une grande distance. Nous nous tenions à présent, croyons-nous, à un endroit où plus rien ne pourrait nous être enlevé. La pilule contraceptive, le droit d'avorter, de voter, de travailler, d'avoir un compte bancaire. Dans la ville, certaines plaques, certains noms de rue certifiaient ces acquis. Ainsi, la passerelle Marie-Claire à Bobigny assurait l'accès au tribunal, tout en rappelant le procès de 1971. Gisèle Halimi défendait une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, accusée par son violeur d'avoir avorté. Traînée en justice, l'adolescente fut relaxée. Le procès devint le procès de la loi même et contribua à la faire changer. En 1975, la loi Veil dépénalisait l'avortement. Qu'il faille emprunter la passerelle Marie-Claire pour se rendre au palais de justice symbolisait notre victoire. La plaque commémorative consacrait cette loi et cette passerelle. Elles étaient là, plus besoin de les défendre. Du moins, le croyons-nous. La surprise fut grande quand le 23 décembre dernier, nous lûmes dans le journal. La passerelle Marie-Claire est condamnée. Elle s'était détériorée au fil des ans. Son délabrement la rendait désormais dangereuse. Étrange résonance du vocabulaire juridique. La passerelle était condamnée alors que Marie-Claire, accusée, avait été relaxée. Était-ce revenir sur le jugement prononcé 50 ans plus tôt ? Marie-Claire Chevalier mourut un mois après la condamnation de sa passerelle. Elle succomba des suites d'une longue maladie. L'avait-on oubliée? Souffrait-elle en silence depuis tant d'années, comme la passerelle? Marie-Claire nous a quittés et sa passerelle reste condamnée. Nous comprenons alors que le temps est cyclique. Nous n'avons aucune prise sur lui. Il tourbillonne de sorte que nos combats ne sont jamais terminés, nos victoires jamais définitives. Nos héroïnes meurent et ceux qui étaient accessibles risquent toujours d'être condamnés.
Quel texte, Lynn Papin, merci. Évidemment pour cela, ce que vous nous dites au fond, si je vous entends bien, c'est la possibilité sans cesse d'un retour du bâton, de la possibilité en fait qu'on revienne sur des combats, sur des acquis surtout.
Oui, on le voit d'ailleurs dans les pays qui entourent le nôtre que voilà, ces acquis ne sont, enfin, sont remis en question et c'est ce temps que l'on croit linéaire finalement est cyclique.
Vous pensez à qui? À quel pays? À quoi?
Je pense aux États-Unis, au Texas, à la Pologne. Je pense à tous ces pays où le droit à l'avortement est voilà, remis en question, interdit.
Qu'est-ce qu'il s'agit de ne jamais oublier pour vous, au fond?
Je pense qu'il s'agit de ne jamais oublier nos droits, notre liberté, de jamais oublier notre corps aussi. Et le fait que tous ces... comment dire? De ne pas se reposer sur ses acquis, puisqu'ils sont toujours remis en question.
Et la littérature permet justement d'avoir bonne mémoire, Lynn Papin?
La littérature, oui, permet d'avoir bonne mémoire et aussi d'être dans le présent. De se rendre compte que, voilà, que le présent bouge.
Et pour autant, souvent, quand on fait de la littérature, quand on écrit un roman, on utilise le mode du passé, le temps du passé, le temps passé, non?
C'est comme si on met le présent au passé, je trouve. On met le présent à l'imparfait.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on prend la distance de l'imparfait pour regarder, étudier le présent.
Vous avez toujours été dans le présent, vous?
Non, je suis beaucoup dans le passé.
Qu'est-ce qu'il a fallu alors pour arriver dans le présent? Toujours cette même histoire? J'ai l'impression que c'est un jalon, ce livre, pour vous.
Oui, ce livre, c'est vrai que c'est beaucoup pour moi, parce que j'ai mis ma photo d'identité d'ailleurs en couverture du livre, photo déchirée. Et je pense qu'à partir de ce livre, mon identité... Voilà, change, remue.
C'est-à-dire que c'est une photo déchirée, mais à partir du moment où elle est imprimée sur la couverture d'un livre, elle devient vraie photo. Elle redevient photo.
Elle se reconstitue.
Elle se reconstitue. Ouais. Vous vous sentez reconstituée ou est-ce que c'est un cheminement, Lynn Papin? L'histoire d'une vie.
C'est un cheminement constant, mais c'est vrai que je me sens en tout cas réparée, pour l'instant.
Et c'est la littérature qui permet ça, toujours?
La littérature répare à chaque fois, en tout cas dans mon cas, oui.
Qu'est-ce qu'elle a réparé dès le premier livre, L'éveil?
Elle a réparé l'éveil, c'était une réconciliation avec le Vietnam, le pays que j'avais quitté. Les eaux des filles, c'est vrai que ça a été une réparation aussi avec mon lien maternel, avec ma lignée maternelle, ma mère, avec cette maladie, l'anorexie. J'ai été ensuite l'ambassadrice de cette cause. Et là, une vie possible, ça a beaucoup réparé voilà, ce que les interruptions de grossesse avaient abîmé chez moi. Et le fait de le partager avec d'autres femmes, de recevoir des témoignages, de se rendre compte que c'est quelque chose de très commun et que ce silence peut être, peut devenir... empli de voix, c'est vrai que ça répare aussi. Donc à chaque fois, chaque livre a été une réparation. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il reste à réparer aujourd'hui, chez vous?
Après la suite, on verra.
Merci infiniment, Lynn Papin, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'Une vie possible est publiée chez Stock. C'est un très beau texte, vraiment. Tout de suite, c'est l'heure des médias, avec Sonia de Villaret, son instant M. C'est juste après ça.
Ma bouche qui tombe de bouche, mes yeux vivent. j'en fais partie. Je te prends, oui, je te prends comme on prend un pli.
Car j'ai de l'instinct et de la violence pour deux. Oui, j'ai de l'instinct et de la violence pour deux.
Sonia De Villers est là, présente, et on vient d'entendre Fishback de l'instinct.